per noi due. Più che il possesso delle cose.
Questa storia accade oggi, in Sardegna.
Quello che conta.
Basta!
È come dire.
Solo con lui, papo, papo, papo.
Il ricordarsi delle cose.
Sarà sepolto al cimitero con sua madre. La famiglia non si divide.
La memoria delle cose.
À l'occasion de l'ouverture de la 60e édition de la rencontre cinéma de Pézenas, la Fédération des cinéclubs de la Méditerranée a choisi de proposer aux spectateurs la projection d'un court-métrage d'animation, La couleur du ciel. Owen Hardinet, son réalisateur, a accepté de passer quelques instants avec nous pour nous parler des différentes phases du projet qui l'a conduit. Owen, bonjour.
Bonjour.
Ta présence en ce début de rencontre n'est pas le fruit du hasard. Tu connais bien cette manifestation puisque tu as fait partie précédemment de l'équipe des bénévoles. Comment en es-tu venu à t'impliquer dans cette rencontre ?
Au tout départ, j'ai entendu parler du festival de Pézenas par des amis et ma petite amie et j'y suis venu. Et puis ensuite, on y est revenu parce que c'est quand même un festival qui est très intéressant, qui est très pertinent et qui reste à l'échelle humaine. Donc on s'y est vite fait et retrouvé les visages qu'on connaît des années précédentes et une ambiance qui se crée et c'est plutôt très sympa.
Alors les années précédentes, donc tu couvrais l'ensemble de la rencontre.
Simplement sur le point photo et vidéo. Je faisais plus de vidéos et c'était mon rôle de bénévole.
Cette année, tu es réalisateur invité.
Oui, les choses changent vite.
Exactement. Quelle impression ressens-tu d'être cette année passée de ce statut donc de photographe à celui de réalisateur invité? Comment tu le vis?
J'éprouve une grosse joie et c'est très touchant parce que, comme je disais, de revoir tous ces gens que je commence à connaître et d'être l'invité cette fois pour parler d'un court-métrage, donc de continuer à partager cette passion mais d'une autre manière en présentant mon projet, c'est vraiment c'est très touchant et je suis très très content, surtout dans ce festival, donc de le présenter.
On ne s'improvise pas réalisateur d'un court-métrage d'animation comme ça du jour au lendemain simplement parce qu'on en a envie. Je suppose que pour en arriver au point où tu es aujourd'hui, même si la réalisation que tu as présentée ne dure que 8 minutes et quelques, on est passé par un certain nombre de phases.
Oui.
D'abord, qu'est-ce que c'est qui t'a conduit vers ce type de moyen d'expression?
Je pense que au tout départ, ça doit être mes parents qui travaillent eux aussi dans l'illustration ou le cinéma et dans le point visuel, c'est-à-dire mon père travaille dans les effets spéciaux, ma mère est illustratrice aussi. Je pense que ça part de là, cette culture, j'ai toujours un petit peu baigné dedans. Et ensuite, évidemment, mes études supérieures, où j'ai continué sur cette lancée, j'ai fait une licence de dessinateur à l'école Émile Cole à Lyon.
Court-métrage d'animation, c'est du dessin.
Oui.
D'abord.
Oui, c'est ça, c'est la base.
Donc les personnages qu'on a vus évoluer hier à l'occasion de la projection de la réalisation, ce sont des personnages que tu as créés.
Exactement.
Bon, créer des personnages, c'est une chose, mais ensuite il faut leur faire vivre une histoire.
Oui.
Alors, quelles sont tes sources d'inspiration? Où penses-tu que se trouvent les raisons qui t'ont amené vers ce type de dessin d'abord et puis ensuite d'histoire?
Eh bien, le dessin, c'est un style que je commence à maîtriser, dans le sens où c'est pas mon premier court-métrage. Et c'est un style que j'aime bien, qui me permet d'être assez efficace puisque je travaille seul. Donc il faut aussi penser à ça, faire quelque chose qui est satisfaisant visuellement pour soi, pour les autres. Et en même temps, ne pas passer 10 ans sur un court-métrage, parce que sinon, c'est une perte de temps. Donc, c'est un style que j'aime bien. Et au niveau de l'histoire, c'est quelque chose d'assez personnel. Comme je viens d'expliquer, j'ai fait un autre court-métrage avant, qui m'a permis de me faire les armes sur la réalisation, qu'est-ce que le storyboard, écrire un scénario, développer une direction artistique. Et donc, pour ce second court-métrage, j'étais beaucoup plus à l'aise avec les outils de réalisation. Et j'ai pu me pencher sur une histoire qui était beaucoup plus personnelle, qui faisait écho à mon enfance. J'aime beaucoup traiter de l'enfance dans ce médium-là du court-métrage, du cinéma. Et ça raconte un petit peu, ça évoque des sensations que j'avais quand j'étais enfant, la mélancolie de ces souvenirs de l'enfance qui me sont très chers, que j'ai pu transmettre dans ce court-métrage. Et oui, c'est assez personnel comme histoire. J'étais vraiment pas sûr que ça puisse plaire ou quoi que ce soit au départ. Je voulais vraiment raconter ça. Et je suis très attaché à l'enfance, de manière générale. Donc c'est vraiment la base de tout, je pense.
En ce qui concerne le dessin, tu étais un amateur de films d'animation, de choses comme ça, ou de bandes dessinées. Est-ce que tu peux retrouver éventuellement des dessinateurs ou des bandes dessinées, des films qui auraient joué un rôle par rapport à la création de tes propres personnages et ton propre dessin ?
Oui, ça sera plus du côté du cinéma d'animation. Des sources assez connues, évidemment, Hayao Miyazaki, par exemple. Mais mine de rien, beaucoup d'images réelles aussi. Des univers qui me sont très chers, du côté de Ridley Scott avec Blade Runner, ou de Denis Villeneuve d'ailleurs, la suite. Ça peut paraître curieux, mais vu que ce sont des visuels qui sont très illustratifs dans le style, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et qui est, je trouve, très, pas simple, mais assez évident à retranscrire en dessin, même si ça peut paraître de l'image réelle. Ça reste soit de l'image de synthèse, soit du trucage, et donc en dessin, il y a quand même un biais et une inspiration qui est possible.
Dans ton graphisme et dans la manière dont tu utilises les couleurs, il y a, dans le film qu'on a vu hier soir, c'était peut-être pas le cas précédemment, ça sera peut-être pas la même chose plus tard, mais il y a énormément de douceur.
Eh bien, merci. Merci. C'est sûr que c'est voulu. Ça joue beaucoup, je pense, sur le côté nostalgie et mélancolie que je veux faire ressentir. Cette douceur, et ça, on va dire que ça aiguille le visuel pour faire ressentir au spectateur pas quelque chose de trop noir, de trop triste. Il y a une partie qui parle par exemple de l'écologie, de l'époque actuelle, de la planète qui commence à arriver à échéance, on va dire. Mais je voulais pas du tout plomber le moral. Et le visuel participe à ça.
Est-ce que ton court-métrage, c'est un travail de militant par rapport à la protection de l'environnement, l'écologie, le respect de la planète?
Oui, je pense, car c'est une cause qui, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, me touche réellement. Et c'est une cause qui me touche d'autant plus que l'actrice qui double le personnage principal, qui est Camille Etienne, qui est une militante écologiste qui fait un travail formidable. Et je trouve que cette voix ajoute énormément, parce qu'on sent qu'elle le croit en ce personnage, et ça ajoute une profondeur qui est folle. Et quand on a parlé avec elle, on s'est tout de suite vite entendu sur cette idée de quel était le but réel du court-métrage et sur ce sous-texte d'écologie.
On sent énormément de sincérité dans sa voix. Et puis il faut reconnaître que, en complément des autres éléments sonores qui composent la bande son du court-métrage, il y a quand même quelque chose qui est très particulier, c'est son timbre de voix, qui ne vient pas du tout en opposition, en décalage, mais qui est vraiment, qui se fond, ou qui sans doute même peut-être participe à l'ambiance.
Oui, complètement. Je pense que c'est 80% du court-métrage. Parce que c'est un court-métrage qui mise énormément sur cette voix off. C'est comme un conte qu'on raconte, l'histoire démarre directement par une voix, quasiment. Et c'était un élément principal. Et heureusement que le timbre de voix convient complètement, c'était indispensable.
Il me semble que tous les éléments sont en harmonie. Le dessin, le graphisme, la couleur, la voix, l'histoire, et un autre élément aussi qui a été salué par beaucoup de personnes qui ont vu le court-métrage, c'est la musique. Une musique particulièrement touchante.
Oui, ben, c'est mon père qui l'a composé. L'entente a été formidable. Il y a eu beaucoup de communication et beaucoup d'échanges, surtout quand c'est quelqu'un de proche. donc on s'entend très bien avec mon père, donc on pouvait se comprendre parfaitement. En plus de ça, c'est une musique, donc comme beaucoup de films, mais qui a été fait sur mesure. J'ai d'abord fini le court-métrage, et ensuite, il a travaillé sur la musique. Donc il l'a fait en fonction des images, et pour que ça incarne également, en plus de la voix, un personnage. La musique est un personnage, elle accompagne la voix, elle aide l'image aussi, et elle aide à raconter l'histoire.
Je n'ai pas beaucoup connu la Terre, mais j'en garde de merveilleux souvenirs. À 11 ans, mon père vint me chercher. Il m'expliqua qu'il était temps de partir à la découverte du ciel. Un ciel qui me paraissait rempli de merveilles. Seulement, nous sommes tombés sur quelque chose d'inattendu.
Quand tu as présenté ton travail, là, tu as parlé d'animation en 2D et non pas en 3D. Tu pourrais préciser la différence qu'il y a et pourquoi éventuellement tu as choisi la 2D ?
Eh bien, parce que je suis pas du tout spécialisé dans la 3D qui est de l'image de synthèse. On peut prendre la 3D, les films de Pixar, par exemple, sont en image de synthèse et c'est de l'animation qui sont faits sur des logiciels complètement différents. Là, on est sur de l'animation 2D traditionnelle. Donc, chaque image que l'on voit défiler à l'écran est dessinée une par une. Il y a, par exemple, entre 8 et 12 images par seconde pour créer le mouvement. Moi, je dessine évidemment digital painting parce que ça fait gagner beaucoup de temps, mais ça pourrait être exactement la même chose que sur du papier. C'est le même fonctionnement, comme faisait Walt Disney à l'époque. Et c'est une technique que j'aime beaucoup et c'était ma formation de base, en fait. Ce que j'ai appris à l'école Émile Cole, c'était les fondations du dessin et je suis resté là-dessus.
J'ai vu que tu étais distribué. D'abord, tu as été produit. Enfin, oui. Une solution, il faut produire. Parce qu'une réalisation de ce type, c'est quand même un investissement financier.
C'est ça. Et j'ai eu la chance de tomber sur Bloc 8 Productions, à qui j'ai présenté mon travail, qui ont accroché. Et le court-métrage était quasiment fini sur le point visuel quand je leur ai présenté. Ils ont pu m'aider sur la partie du son. Donc tout ce qui est montage son, toute l'ambiance qui est créée, le son de l'espace, tout ce qui concerne tout ce qui est à côté de la musique, en fait. Ils ont pu aussi contacter Camille Etienne et on a pu l'enregistrer grâce à eux. Ce qui encore une fois fait 80% du film, enfin, on va dire 50%, vraiment audiovisuel, c'est une par image, une par son, équitable. Et donc oui, j'ai eu cette grande chance, ce qui aide beaucoup à avoir fini le film, parce que tout seul, ça aurait été quelque chose de très différent, et je pense que ça n'aurait pas du tout fonctionné.
Oui, parce que très souvent, on prend une bande de son comme un ensemble, et puis on ne se rend pas compte que c'est de l'intervention d'un ensemble de professionnels. Pour aller du compositeur jusqu'à la bande de son finie, il y a tout un tas d'étapes, il y a tout un tas d'expertises qui s'ajoutent les unes aux autres.
Oui, il y a autant d'étapes qu'en images au final. Parce qu'il y a d'abord le montage son qui est très important. Et c'est un petit peu comme écrire une histoire aussi, parce qu'on va choisir que certaines matières font un certain bruit. Dans La couleur du ciel, par exemple, l'espace fait un son. Alors que l'espace ne fait pas de son, mais là on a choisi d'en ajouter un. On s'est inspiré des sons de la mer, par exemple. Il y a des sons de baleines au ralenti, ce qui est toute une métaphore du voyage marin aussi. Ce qui joue, dans l'inconscient, on n'est pas obligé de le remarquer à la première vision de toute manière, mais l'inconscient c'est quelque chose qui est très important dans un film. Pourquoi telle chose nous crée des émotions, on s'en rend pas forcément compte. Mais c'est plein de petits paramètres invisibles qui le font et encore une fois qui servent l'histoire. Donc le son est tout aussi présent au scénario que le scénariste.
Alors une fois le projet abouti et le court-métrage d'animation terminé, il faut ensuite le faire voir.
Oui.
Et là, on arrive à la phase de la distribution.
Exactement. Et la distribution, c'est tout un métier. Heureusement, encore une fois, que Bloc de Production m'aide, qui se charge de la distribution, ça touche... c'est quelque chose, de ce que j'en sais en tout cas, qui est assez compliqué, parce que c'est des thèmes abordés qui sont particuliers, qui touchent à l'enfance, qui peuvent ne pas être très clairs ou ne pas parler forcément à tout le monde. Il y a évidemment l'idée de l'écologie, et donc les festivals, par exemple, dans lesquels est pris La Couleur du Ciel, sont souvent des festivals engagés autour de l'environnement. Pour l'instant, c'est beaucoup ça. Et ça ne correspond pas du tout à tout type de festival. Les festivals qui ne peuvent pas le prendre car ça ne colle pas à leur valeur, tout simplement. J'ai déjà eu la réflexion.
D'accord, mais j'ai vu quand même que tu avais participé à un certain nombre de ces festivals et que tu avais passé les étapes d'une première sélection puisque tu étais arrivé dans ceux qui allaient être projetés à l'occasion du festival. C'est déjà pas mal.
Ah, c'est déjà très bien. Ah oui, oui. C'est un beau parcours, maintenant il faut attendre. C'est vrai qu'un film, un court-métrage, quand il commence à être inscrit, il a une vie de 1 an, 2 ans au festival. Donc il faut être patient et puis voir à qui ça plaît, où est-ce qu'il est inscrit. C'est très intéressant à suivre.
On vient de parler donc de ta dernière réalisation, court-métrage pardon, qui a pour titre La couleur du ciel. Des projets peut-être hein.
D'autres projets, j'ai déjà terminé un court-métrage entre-temps, qui est beaucoup plus court, qui était destiné à un festival, le Nikon Film Festival, où c'est un format de 2 minutes 20, où on doit respecter un thème. Donc j'ai réalisé un court-métrage de 2 minutes 20, avec un thème précis. Ce qui était intéressant, car j'ai pu me concentrer pendant une période assez courte sur un format très court, ce qui ne m'a pas pris une nouvelle fois 1 an et demi comme La Couleur du Ciel. Et ensuite, j'ai d'autres projets avec Bloc de Production sur une réalisation future d'un autre court-métrage.
On peut vivre du fruit du travail qu'on vient d'évoquer ou il faut à côté, de temps en temps, proposer des prestations
Au début, oui, il faut. J'en suis toujours là, d'ailleurs. Je travaille pour soit du film, soit de la publicité en tant qu'illustrateur. Dans le dessin, c'est la grande chance que j'ai, c'est que je vis quand même de ma passion, mais je ne vis pas de mes courts-métrages. Bah, pas encore.
Mais ça sera pour bientôt.
Eh bien, j'espère.
Owen, merci d'avoir accepté de passer ces quelques instants en compagnie des auditrices et des auditeurs de Radio Pays d'Hérault. Merci aussi au patron et à la patronne du QG de Pézenas et qui nous ont permis de nous mettre à l'abri pour réaliser l'enregistrement de l'émission, ce qui explique que peut-être il y a certains bruits de fond. Bonne route à toi.
Merci.
Et j'espère à très bientôt avec une nouvelle production.
À bientôt.
Julien Paolini, bonjour.
Bonjour.
Pendant plusieurs jours, vous avez été présent à Pézenas pour participer à la 60e rencontre cinéma. Vous avez présenté plusieurs films italiens et animé des échanges à l'issue des projections. En votre présence, les spectateurs ont pu assister à la projection d'Amar et Amaro, un long métrage que vous avez réalisé et qui a remporté le Grand Prix Polar de Cognac. Pour permettre aux auditrices et aux auditeurs de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud de faire plus ample connaissance avec vous, que pouvez-vous nous dire qui expliquerait votre intérêt pour le cinéma italien et qui expliquerait aussi, dans un deuxième temps, les étapes de votre parcours professionnel?
C'était un réel plaisir en 3 jours à Pézenas. J'ai rarement vu dans mon parcours de festival des salles aussi pleines, aussi attentives. Donc ça explique par exemple mon amour pour le cinéma italien, c'est que j'ai pas l'air d'être le seul et que ce public... en France, c'est très nombreux. Je l'ai découvert donc malgré moi. Amar et Amaro est un film produit en France, mais en langue italienne. Il a fait du coup un chemin de festival parfois, comme ça, pas mal focalisé autour du public du cinéma italien, mais pas que. Au départ, ça a été Taormina en Italie, Vancouver au Canada, mais en France, il y a eu Cinémed, le cinéma méditerranéen, puis Cognac. et encore Saint-Jean-de-Luz, le cinéma d'auteur. Mais bon, tout ça pour dire qu'après, s'en sont suivis beaucoup d'avant-premières focalisées sur le cinéma italien, et donc un public comme ça qui était souvent le public du cinéma italien. Et ce qui me surprend, ce que je remarque, c'est que cet amour que j'ai pour le cinéma italien et que beaucoup partagent montre qu'il y a une vraie longévité du côté des films qui ont marqué... qui ont marqué l'histoire du cinéma par l'Italie. C'est, j'ai l'impression que dans la qualité, l'artisanat, mais aussi parfois l'humanité du propos, j'ai l'impression que ces films-là ont vraiment laissé une trace indélébile, en fait.
Il est dit que le cinéma italien est facilement comparable à l'Empire romain. Il a été immense et puis il s'est écroulé. La programmation de Rencontres Cinéma de Pézenas, par contre, de cette année, veut faire la démonstration qu'il y a une renaissance du cinéma italien, puisque sur les 31 films présentés, il y en a 17 qui ont été réalisés, produits après 2000. Vous partagez cet optimisme-là ?
J'espère. En fait, en vérité, vu que je suis franco-italien, italo-français, en fonction des périodes, j'ai pas l'impression de témoigner pour le cinéma italien, dans le sens qu'en fait, je fais un cinéma italien, mais en France. C'est assez paradoxal. Donc, le cinéma étant un art très lié au marché, c'est ce dont je me suis rendu compte là, ces 15 dernières années. Moi, j'ai un parcours d'une quinzaine d'années, donc je suis un jeune réalisateur, bientôt moins jeune qu'avant. Et dans l'idée, quand on porte un film, il faut le faire financer, le faire produire. Et d'une certaine façon, il faut que du coup, ce film, donc à l'état de scénario, trouve une harmonie avec son temps. Avec son temps, alors ce qui peut trivialement passer par avec ses producteurs, ses financiers, ses chaînes de télé, ses régions, c'est-à-dire tous ces gens qui sont décisionnaires sur le réalisateur pour que son film voie le jour. Donc c'est juste que, oui, à l'époque, Cinecittà et l'industrie italienne étaient fortes, elles produisaient à l'international, et du coup c'est aussi une industrie qui a permis en fait tout ce cinéma que j'évoquais tout à l'heure, ces films magnifiques qui sont restés. Cette industrie, effectivement, elle a été avalée par le sol, elle s'est désagrégée, elle n'existe plus, effectivement. Contrairement à l'industrie française, le cinéma français, c'est très très bien structuré. Il a le CNC, il a tous ces organismes qui font sa vie comme ça, la pluie et le beau temps. Et donc, en fait, voilà, l'industrie française se porte bien, l'industrie italienne ne se porte pas bien, je crois. Cependant, les films italiens continuent à arriver jusqu'à nous et de très bons films italiens contemporains continuent d'arriver en festival et dans nos salles. Donc oui, dans l'absolu, le cinéma italien continue de se renouveler. Plus qu'avant, je ne sais pas, mais d'autres peut-être saurons-nous le dire. Je pense qu'il y a quelques grands maîtres très présents et que ces grands maîtres sont parmi les meilleurs aujourd'hui. C'est un peu ça, en fait. C'est que si c'était du tennis, c'est comme si on avait un Nadal dans l'équipe, quoi. C'est un peu ça, Sorrentino, c'est vraiment un des grands maîtres aujourd'hui. Matteo Garrone aussi, du coup, dans le Roland-Garros, qui est le festival de Cannes, ils sont toujours en finale, quoi. Donc ça montre bien. Après, du côté des jeunes réals, oui, il y a des jeunes réals, mais ils ont quand même plus de mal, quoi. C'est-à-dire que c'est des films au long cours, un peu fragiles aussi. Donc c'est toujours le truc, quoi.
Il y a peut-être eu, à certains moments en Italie, des choix de politique culturelle qui n'ont pas aidé le cinéma ou qui l'ont tiré vers des productions qui n'avaient rien à voir avec les grandes productions qu'on connaît de l'après-guerre, quoi.
Ça s'est désagrégé, oui, avec la télévision. Ouais. Dans les années 80, ça a été la fin un peu du cinéma italien du point de vue de l'industrie, c'est une certitude. Après, bon, aujourd'hui, vous rajoutez à ça toute la problématique complexe de quel est l'avenir du cinéma avec la consommation des plateformes, l'ensemble de ce qu'on en fait. Bon, voilà, ça devient des sujets très vastes. Mais théoriquement, en France, il y a un retour dans les salles. En Italie, j'espère aussi, mais j'ai l'impression que le cinéma italien, il est d'autant plus, en fait... relié au marché, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une tradition en fait d'un cinéma télévisuel parfois, i cinepanettoni, les grosses comédies, et puis comme partout, tous les réalisateurs les plus connus qui font leurs films quoi qu'il arrive. Et après, est-ce que les jeunes réalisateurs, les nouveaux réalisateurs ont leur place dans tout ça? Un petit peu. Ils doivent se battre. En vérité, le film que j'ai fait, par exemple, est un film indépendant, fait avec très peu d'argent. Il prouve qu'on peut faire un film si on veut faire un film. C'est un peu l'idée. Donc c'est un peu ce que j'espère des jeunes réalisateurs, c'est qu'ils fassent des films, quoi qu'il arrive.
Quand on jette un regard sur votre parcours professionnel, on voit que vous avez touché à bien des métiers du cinéma. Vous avez commencé par l'écriture de scénarios. Vous avez ensuite été adaptateur. Puis vous avez également été réalisateur. Et vous avez même touché à la production.
C'est vrai. J'ai l'impression que c'est un métier où l'ensemble des expériences qu'on a eues font la qualité. Je ne sais pas si c'est la qualité du regard, parce qu'un regard, ça ne se construit pas que dans la pratique. Mais en tout cas, il faut avoir pratiqué, il faut avoir compris quels sont les postes, les rouages de cette machine. Quoi. C'est quand même une grosse machine. Ce n'est pas de la peinture, de la sculpture. On n'est pas tout seul avec son pinceau. Donc, plus on accumule de connaissances, d'expériences, plus on est à même de faire des bons films. Et après, c'est des parcours qui se construisent aussi par la nécessité. Quoi. C'est ce que j'évoquais, que le jeune réalisateur, il doit faire ses armes. Et parfois, pour faire ses armes, il faut qu'il impose sa place. Donc, c'est ce qui s'est passé.
Votre parcours, c'est peut-être aussi la recherche de maximum d'indépendance par rapport à ce que vous vouliez créer, réaliser, dire.
Ben, vous avez raison. C'est vrai que, en vérité, aujourd'hui, si on veut pouvoir vraiment créer, il faut arriver à se faire connaître, atteindre une forme de visibilité qui ensuite permet d'arriver à faire des films toujours aussi créatifs, mais cette fois produits, financés. Donc le film que je présente ici à Pesna, c'est le film suivant qui est en train de se terminer là bientôt, là, dans les semaines qui viennent, le deuxième long métrage. Ce sont des films que j'ai produits avec d'autres producteurs, mais dans lesquels effectivement je me suis impliqué aussi en production pour pouvoir les accompagner le plus librement possible.
La présentation que le livret de la rencontre fait de vous précise que votre parcours est celui d'un autodidacte. C'est vrai ? Il n'y a que ça ?
C'est vrai, mais alors je commence par dire aux auditeurs que ce n'est pas ma recommandation. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui passent par le chemin des écoles. Il y a cette espèce de rengaine que ça ne sert à rien. Moi, je suis finalement, avec la maturité venant, contre ce point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, oui, j'ai fait 7 courts-métrages, j'ai fait peut-être plus d'une centaine de clips et de publicités. C'est mon deuxième long-métrage. L'ensemble de ce chemin a construit qui je suis en tant que réalisateur. Cependant, si j'avais fait une école, j'aurais pratiqué autrement. Et c'est pas donné à tout le monde d'arriver à concrétiser des courts-métrages. Ça a été une vraie bataille à chaque fois, mais c'est comme ça que j'ai appris mon métier. J'ai eu la chance de l'apprendre en le faisant. Ça n'est pas donné à tout le monde. Il y a d'autres chemins. Et je suis autodidacte, mais ce n'est pas la seule voie.
C'est peut-être aussi une façon de créer un art original, en évitant tout formatage.
C'est intéressant de le voir comment vous le voyez, c'est-à-dire donc se dire que en étant autodidacte, on ne se fait aucunement formater par ses enseignants. Et je comprends l'idée. J'ai l'impression que c'est un mélange de pratique et de théorie par la force des choses, la réalisation, et que par conséquent, on peut effectivement se dire que la théorie, donc l'enseignement reçu à l'école, est subjectif, mais la pratique que l'école parfois met à disposition, elle. Elle est pas simple à mettre en place quand on n'est pas dans un cursus scolaire. Moi, du coup, les courts-métrages que j'ai faits, je les ai développés. Donc, à chaque fois, ça a été un an de ma vie à monter, c'est comme ça qu'on dit, les films. Et donc, je suis une tête de mule un peu déterminée. Donc, j'y suis arrivé. Mais pas mal de collègues, jeunes collègues, peuvent se perdre dans des années multiples à essayer de monter des films qui ne se font pas. Donc, encore une fois, ne perdons pas trop de temps sur les points, enfin, à penser que les écoles ne servent à rien. Je pense qu'elles servent et que chacun y trouve ou pas son compte et qu'il s'agit de trouver le mieux son chemin.
L'essentiel, c'est qu'on ait le choix entre des possibilités différentes.
Ouais.
J'ai l'impression, à travers ce que j'ai pu lire sur votre parcours professionnel, que peut-être qu'avant l'image, pour vous, le mot a été très important.
Alors là, effectivement, je vous rejoins totalement. C'est-à-dire que, on va pas se mentir, un film sans scénario, c'est pas vraiment un film. Et j'ai commencé l'écriture des textes littéraires avant l'écriture du scénario. Et c'est vrai que très jeune, donc moi, je suis né en Italie, je suis arrivé en banlieue parisienne à 8 ans, il y avait la méthode Freinet à l'époque, pour les petits comme moi, où on partageait tous ensemble des histoires, on élisait chaque semaine la meilleure histoire, on faisait des fiches de lecture. Et je pense que c'est ça, sincèrement, qui m'amène aujourd'hui à vous parler, c'est que raconter des histoires, c'était ça la force. Enfin, en tout cas, l'envie et petit à petit, une des forces comme ça qui s'est dessinée. Donc oui, les mots, c'est à mon sens primordial. Mais là-dessus, voilà, l'air de rien, il y a beaucoup de réalisateurs qui ne sont pas forcément auteurs, ça fonctionne aussi, mais cependant, la partition, ça reste le scénario.
Quand vous avez fait des adaptations, je suppose que c'est parce que vous aviez eu le coup de cœur pour quelque chose qui avait été écrit par quelqu'un d'autre.
Alors là aussi, c'est intéressant parce que je trouve que l'écriture, en fait, même quand on la pratique, elle reste complexe. C'est un magma, en fait, un endroit où on est seul face à sa page blanche et en fait, on a des idées, des envies, parfois une rigueur pour les plus professionnels d'entre nous. Cependant, il n'y a jamais rien de garanti. Donc en fait, les écritures durent longtemps. Mon troisième long métrage, là, à venir, c'est 5 ans d'écriture avec 3 auteurs différents, avec 3 versions qui ne sont pas des versions. Il y en a des dizaines derrière. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que parfois, l'adaptation peut faire un bon film. Enfin, dans le sens que la contrainte, le cadre, permet parfois d'élaborer à l'intérieur des histoires voilà, très, très efficaces qui elles-mêmes deviennent du coup des outils pour la réalisation fertile. Et donc c'est pour ça que pas mal d'entre nous aiment bien cet exercice.
Vous avez adapté J'irai cracher sur vos tombes, Boris.
Oui, donc je suis un amoureux de Vian et J'irai cracher sur vos tombes comme tout le monde. Voilà, c'était un livre qui m'avait pas mal intrigué, fasciné. Et donc à l'époque, plus insouciant que maintenant, c'était il y a peut-être pas une dizaine d'années, mais un peu moins, j'avais abordé un axe d'adaptation et j'avais proposé cet axe d'adaptation, voilà, Coerie Boris Vian, donc qui sont les responsables des ayants droit de Vian. Et cet axe, qui était l'Algérie française à l'aube de la guerre d'Algérie, qui était une façon d'adapter littéralement le livre de Vian pour en refaire une œuvre française, franco-française, avait plu. Et donc pendant plusieurs années, c'est le propre du réalisateur, des producteurs s'y intéressaient et ce projet n'a pas eu lieu parce que l'Algérie française ne plaît pas aux producteurs et aux spectateurs parfois et c'était très explosif. Donc ça, c'est un des 10 bébés avortés du réalisateur. Donc c'est un métier comme ça où il faut savoir faire le deuil ou en tout cas beaucoup de compromis.
J'ai vu également que vous aviez réalisé un clip de Gaël Faye. Là ouais. Aussi, vous avez partagé le même amour des mots avec lui.
Ouais,
je n'en doute pas un hasard.
c'est vrai, c'est une jolie image à retenir. Et c'est drôle parce que je l'ai recroisé dans le métro il y a 3 semaines. Ça en dit long sur Gaël Faye, c'est-à-dire que les artistes, parfois, à un stade de leur carrière, ils peuvent se déconnecter de la vie, enfin en tout cas du peuple. Quoi. Lui, il était dans le métro avec son bouquin et je le croise dans une rame vide qui allait à un rendez-vous. Il vit entre Paris et l'Afrique. Enfin, ça, voilà, c'est vraiment quelqu'un, un artiste incroyable.
Votre premier long métrage, hein, Amar et Amaro,
tout à fait.
a été au programme de la 60e rencontre cinéma de Pézenas. Vous l'avez présenté, vous avez pu échanger avec le public. Il y a un deuxième long métrage en cours ou qui va sortir, non ?
Tout à fait. Ça s'appelle Karma Police. C'est en fin de post-production. Je pense que d'ici 10 jours à peine, le film sera fini définitivement. Et du coup, maintenant, il va petit à petit commencer un nouveau parcours festival. Ces films-là, aussi libres qu'ils soient, ils ont besoin de trouver leur place et de s'installer avant la sortie en salle. Donc, je ne sais pas encore quand est-ce que je pourrais vous le partager, mais voilà, il y en a un deuxième.
Vous êtes présenté comme un explorateur du monde d'aujourd'hui, avec quelquefois un regard un petit peu critique quand même sur ce monde. Vous avez une conception militante du cinéma ?
Je pense qu'on peut dire oui, au sens large, dans le sens que un cinéma militant, c'est Costa Gavras, c'est Guédiguian. Ça, c'est un cinéma militant. Mon cinéma, il est plutôt philosophique, c'est-à-dire que l'idée, c'est de philosopher autour de réflexions. Après, souvent, ces réflexions sociétales, sociales, elles sont propres à chacun. Et donc, en fait, j'ai l'impression que Un film doit suffire à lui-même, infuser des réflexions, les laisser chez le spectateur qui les ramène chez lui. Et que c'est comme ça que l'œuvre peut avoir un sens et trouver un sens. Moi, c'est plus ça, je pense qu'inconsciemment, la démarche, elle est de contribuer au monde auquel je vis. Et donc voilà, donc je suis très, très porté sur la justice morale, le combat pour l'humanité, que ce soit le premier film ou le deuxième film, c'est ça vraiment la colonne vertébrale, le combat pour l'humanité.
Et universel, travailler aussi avec des pays d'Afrique, avec les USA.
Oui, c'est voilà, dans le monde qu'on vit, un monde globalisé. Je pense que c'est l'idée, c'est ça, c'est que le cinéma, c'est tellement universel. On a la chance de faire ce métier qui, du coup, peut parler au monde entier. Donc j'essaie de pas être franco-français. En fait, je me sens pas franco-français. C'est ça le truc, c'est que même si voilà, c'est ma vie d'adulte que j'ai passée en France, que le français est ma langue majoritaire, j'ai ce syndrome du fils d'immigré, quoi. Je suis né dans un autre pays, j'ai grandi en banlieue, et du coup, d'une certaine façon, mon identité n'est pas que française. Et du coup, ça veut dire être tourné vers un autre pays, et ça veut dire avoir une réflexion de fond qui est celle de la multi-identité.
Julien Paolini, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de passer quelques instants en compagnie des auditeurs de Radio Pays d'Héros et RPH Sud.
Merci Jean.
À bientôt.